Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc, je suis ravi de pouvoir intervenir dans ce colloque et je vais essayer de vous parler de la métacognition. Donc, je vais évidemment définir ce que j'entends par métacognition, qui est globalement l'ensemble des processus d'autoréflexivité que nous avons les uns et les autres sur les processus que nous engageons dans nos apprentissages. Je vous parlerai aussi de fonctions exécutives qui sont ces fonctions de haut niveau qui permettent de réguler l'ensemble des processus cognitifs, sociaux et émotionnels que nous engageons dans les situations d'apprentissage. Je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut constituer finalement des explications aux inégalités qui s'expriment dans le domaine des apprentissages et comment on peut essayer de jouer sur ces mécanismes en les enseignant très explicitement aux enfants et aux adolescents comme un vecteur potentiel de réduction des inégalités, même si vous verrez qu'on est à des stades de nos recherches qui restent finalement relativement exploratoires de ce point de vue-là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans les 35 minutes que nous aurons ensemble, du temps de mon exposé, puis après je vous laisserai me poser les questions sur tout ce qui n'aura pas été clair sur ce que je vous ai présenté. Alors le laboratoire que je dirige, c'est le LabCD. Si vous voulez avoir un peu plus d'idées sur ce qu'on fait au LabCD, vous pouvez regarder le 21 du LabCD. Alors, j'en parle avec d'autant plus de bonheur que c'est une initiative des doctorantes et des doctorants du laboratoire de participer à la diffusion et à la dissémination du savoir scientifique, notamment sur ces questions d'inégalité éducative, du cerveau qui apprend à lire, écrire, compter, raisonner, penser par et contre soi-même, donc je vous invite à aller regarder ces ressources. Donc, globalement, ce qu'on essaie de faire au laboratoire, c'est de comprendre le développement et les apprentissages de l'enfant dans le cadre d'un tissu biologique qui est lui-même en pleine maturation. Donc, la particularité du cerveau humain, c'est qu'il commence à se développer très tôt, en fait, avant la naissance. Donc là, on a représenté la naissance, mais le développement cérébral s'opère en partie pendant la période de la gestation. Et puis, l'autre particularité du cerveau humain, c'est qu'il se développe très longtemps ex utero, pendant plus de 20 à 25 ans, ce qui crée évidemment une fenêtre d'opportunité d'apprentissage extrêmement importante qui est propre à l'espèce humaine. C'est-à-dire que si vous comparez par rapport aux autres espèces, en comparaison, nos plus proches cousins, les grands singes, leur boîte crânienne se développe 4,5 fois moins longtemps que la boîte crânienne humaine, donc ça peut nous laisser supposer que leur cerveau se développe pendant beaucoup moins longtemps. La particularité du cerveau en développement, je ne vais pas vous faire tout un cours sur le cerveau en développement, parce que ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, mais l'idée c'est simplement de vous dire et de vous sensibiliser sur l'idée que pendant cette période de développement cérébral, le cerveau est particulièrement plastique. Alors ça veut dire quoi plastique? Ça veut dire que au cours des apprentissages, quels qu'ils soient, ça peut être des apprentissages sensorimoteurs, des apprentissages beaucoup plus intellectuel et complexe et cognitif comme au cours des apprentissages scolaires fondamentaux, notre cerveau va passer son temps à se transformer. C'est ce qui permet l'acquisition de nouvelles compétences. C'est vrai, par exemple, y compris en dehors de cette période du développement cérébral, parce que la neuroplasticité persiste en dehors du développement cérébral, pendant laquelle, par exemple, c'est une des études principes sur la neuroplasticité, une étude dans laquelle on a appris à des jeunes adultes à jongler pendant 3 mois, c'était des adultes qui ne savaient pas jongler, on leur apprend à jongler pendant 3 mois, et l'acquisition de nouvelles compétences, qui est la compétence de jonglage, s'exprime par des modifications de la structure de certaines régions cérébrales, par exemple dans les parties postérieures du cerveau, notamment dans le cortex visuel et plus particulièrement dans des régions qui sont impliquées dans votre capacité à suivre plusieurs objets en mouvement dans votre champ visuel, qui est typiquement une des compétences que vous développez au cours de l'apprentissage du jonglage. Donc c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la plasticité qui s'opère dans le cerveau, pas uniquement à un niveau fonctionnel, au niveau des activités et des régions qui sont engagées au cours d'une même activité, mais également par la transformation de l'architecture même du cerveau. Et donc, la particularité du cerveau en développement, c'est que s'opère finalement ce type de modification à des rythmes beaucoup plus importants que dans d'autres périodes de la vie, ce qui nous donne des opportunités d'apprentissage extrêmement importantes, avec des périodes de sensibilité plus ou moins fortes à l'environnement, c'est-à-dire des périodes où on apprend plus rapidement, mais dans lesquelles, effectivement, on a aussi des facteurs de vulnérabilité qui vont émerger, parce que si je vous dis que le cerveau est plastique, par définition, les caractéristiques d'un environnement, par exemple d'un environnement social, vont impacter ce développement cérébral. Alors, on parle beaucoup des 1000 premiers jours, il y a eu une commission sur les 1000 premiers jours, avec l'idée qu'il fallait faire effectivement extrêmement attention à ces premiers temps du développement de l'enfant qui est très affecté par le milieu social dans lequel l'enfant se développe. Et en fait, de plus en plus, on a un ensemble de données qui suggèrent que l'adolescence est une période très longue, hein, l'adolescence. L'adolescence commence au moment où vous rentrez dans la puberté et elle va se finir autour de 20-25 ans. Donc c'est une période de presque 10 à 12 ans dans laquelle le cerveau est pratiquement aussi plastique que la période 0-3 ans. Donc ça veut juste dire qu'il faut un peu qu'on relativise parfois le discours en disant globalement ces 1000 premiers jours sont extrêmement importants, il y a quand même des fenêtres, d'autres fenêtres de plasticité sur lesquelles on peut agir pour essayer de réduire les effets par exemple du milieu social d'origine. Ceci étant dit, il y a de plus en plus d'études qui montrent que très tôt, le développement cérébral va être impacté par le milieu social d'origine. SSE, ici, renvoie à statut socio-économique. Donc, si vous évaluez le statut socio-économique des familles et que vous regardez l'effet de ce statut socio-économique sur le cerveau humain, vous voyez toutes ces zones représentées ici en jaune et en rouge qui sont impactées par le milieu social d'origine de l'enfant. Et vous voyez que ce n'est pas une petite région du cerveau, c'est-à-dire qu'on impacte une grande partie du cerveau, et notamment tous les systèmes qui sont importants pour les apprentissages fondamentaux et les apprentissages scolaires. Vous impactez les régions langagières, vous impactez les régions qui sont impliquées dans la mémoire à long terme, les régions impliquées dans la régulation émotionnelle et les régions qui sont impliquées dans l'apprentissage des règles. Donc globalement, vous touchez tous les systèmes dont vous avez besoin pour apprendre. Donc en fait, les inégalités éducatives, les inégalités en termes d'apprentissage, elles émergent extrêmement tôt au cours du développement, parce qu'on impacte très tôt le développement cérébral en fonction de certaines caractéristiques du milieu dans lequel se développe l'enfant. Ici, c'est des données qui portent sur des enfants à 4 mois après la naissance. Donc 4 mois après la naissance, vous avez déjà des divergences, des courbes de développement cérébral, en fonction du milieu social d'origine. Alors, c'est évidemment pas la catégorie socio-professionnelle qui produit ça, c'est les caractéristiques inhérentes au milieu qui sont plus ou moins prévalentes dans ces catégories sociales. Donc, par exemple, on sait que quand vous êtes issu d'un milieu populaire, vous êtes plus soumis à du stress chronique. Le stress a des effets sur une hormone que vous connaissez qui est le cortisol. La particularité du cerveau humain, c'est que vous avez des récepteurs au cortisol, notamment dans les régions qui sont représentées ici en rouge et en jaune. Donc l'augmentation du stress chronique augmente le taux de cortisol qui vient se fixer sur le cerveau et qui affecte le développement cérébral. C'est vrai aussi de la qualité du sommeil. Si vous vivez dans des environnements plus exigus avec plus de personnes au mètre carré dans un appartement, par définition, vous allez avoir des interférences sur le sommeil des enfants et ça aura des impacts sur le développement cérébral et notamment sur la plasticité, les mécanismes de plasticité, en particulier ceux qui s'opèrent pendant le sommeil, qui sont les mécanismes importants pour la mémorisation des informations et en particulier la consolidation des informations. Donc on voit bien comment ça peut avoir un impact direct sur les apprentissages des enfants et sous-tendre finalement les inégalités éducatives et les inégalités scolaires que nous observons très tôt au cours de la scolarité. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, notamment sur des données administratives. L'autre aspect du sommeil, c'est que ça va aussi impacter de façon globale le développement du cérébral de l'enfant. Et puis la dernière chose, alors c'est intéressant, c'est finalement, on en revient au capital culturel de Bourdieu, c'est-à-dire qu'en fait, la stimulation cognitive de l'enfant, le fait qu'il puisse avoir accès à des ressources culturelles et un certain nombre de ressources de type ludique, le fait que ses enfants, ses parents vont jouer avec lui, tout ça va stimuler le développement cérébral. Donc on voit aussi que le fait, par exemple, le nombre de livres à la maison, on le prend souvent comme ça a un effet sur, par exemple, l'apprentissage du langage écrit, mais en fait ça a un effet sur l'apprentissage du langage écrit parce qu'en fait ça a un effet sur le cerveau qui lui-même va créer des opportunités ou des vulnérabilités d'apprentissage dans ce domaine-là. Tout ça s'observe effectivement comme ces inégalités du milieu social, les caractéristiques de ces milieux sociaux ont un impact sur le cerveau en développement. Très tôt, on voit apparaître des inégalités, notamment dans des compétences pré-académiques qui sont extrêmement prédictives de votre capacité, par exemple, d'acquérir un outil culturel comme la lecture. Si vous regardez en fonction du milieu social d'origine le nombre de mots qui a été adressé en fonction du milieu social d'origine, en jaune ici vous avez des milieux sociaux favorisés, en bleu vous avez des milieux sociaux défavorisés, je vais aller un peu vite, hein. Je prends deux grandes catégories, les deux extrêmes de la distribution. Globalement, à 36 mois, l'enfant qui vient d'un milieu social favorisé, on lui aura adressé en cumulatif 35 millions de mots. Quand il vient d'un milieu social défavorisé, c'est 10 millions de mots. Donc il y a un gap, il y a un décalage de 25 millions de mots. qui est évidemment très complexe à compenser dans les 3 années de la maternelle, puisque c'est un peu ça l'enjeu de la maternelle, c'est de travailler sur la dimension du langage oral. Mais vous voyez bien que 25 millions de mots, c'était extrêmement difficile à compenser. Et ça a un impact direct sur le nombre de mots. Encore une fois, je prends 36 mois, puisque c'est l'entrée à la maternelle, en tout cas en France, où l'école est obligatoire à partir de 36 mois. Vous avez, pour les milieux sociaux favorisés, à peu près 1100 mots dans le vocabulaire de l'enfant. C'est 525 pour les milieux sociaux les plus défavorisés. Donc il y a déjà 600 mots de décalage. Et la différence ne va faire que s'accroître au cours du temps. Et la problématique que ça pose pour l'école, c'est que ce qui est un prédicteur, un très bon prédicteur de votre capacité à être un bon lecteur, c'est évidemment votre capacité, et l'école insiste beaucoup dessus en ce moment, sur votre capacité à reconnaître des lettres, des mots, c'est ce qu'on appelle les capacités d'association graphophonémique entre la façon dont on écrit les sons et les sons de la langue, mais il y a un énorme bloc de compétences qui est très prédictif de votre capacité à bien apprendre à lire, c'est votre compréhension du langage oral. Donc, globalement, si vous avez des différences en termes de milieu socio-économique sur l'apprentissage du langage oral, je dirais de facto, vous allez avoir des effets d'inégalité dans le domaine du langage écrit. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce que, quand on regarde les évaluations nationales, en France, 6 mois après l'entrée en CP, il y ait des différences en termes de qualité de l'apprentissage du langage écrit. C'est, d'une certaine manière, c'est écrit, puisque vous avez déjà 600 mots de différence dans le vocabulaire de l'enfant en fonction de son milieu social d'origine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'est le constat, et ce qu'on essaye de faire en partie dans un laboratoire comme le mien, c'est de dire, ben, outre le constat, qu'est-ce qu'on a comme levier d'action? Donc, il y a d'autres laboratoires qui essayent de travailler sur cette question-là. Il y a notamment des laboratoires qui essayent de travailler sur l'environnement extrascolaire, parce que je crois qu'on vous a dit ça ce matin, mais si l'enfant passe 15% de son temps éveillé à l'école, ben, par définition, il faut jouer sur les autres environnements dans lesquels l'enfant va vivre, et notamment sur l'environnement extrascolaire. Donc ça, c'est un dispositif qui a été testé aux États-Unis dans la ville de Chicago, en interaction et en collaboration forte avec la communauté, avec les communautés locales, notamment dans des quartiers type quartier politique de la ville, dans lequel les chercheuses ont essayé de transformer un certain nombre d'abribus en espaces d'apprentissage ludique. Donc l'idée, c'est de dire il y a du mobilier urbain qui sert globalement à rien, enfin, à se protéger de la pluie, et ainsi de suite, mais globalement, on va le réutiliser pour créer des espaces de jeu qui vont avoir comme, finalement, enjeu principal d'essayer de favoriser les interactions langagières entre les adultes et les enfants. C'est ça qu'on essaye de viser. Et globalement, on vise non seulement des activités ludiques pour développer le langage, mais aussi ce jeu dont je vais vous parler juste après, des fonctions de haut niveau qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont des fonctions qui sont extrêmement prédictives des capacités d'apprentissage des enfants. Donc, c'est des fonctions de très haut niveau que je vais définir juste après. Et globalement, ce que montre cette étude, quand on compare à des terrains de jeu témoins, c'est-à-dire des abribus témoins, on a plus d'interactions parent-enfant par rapport aux terrains de jeu témoins, plus de communication enfant-adulte, et on améliore de 2 à 36% les capacités langagières des enfants, notamment dans le cadre des relations spatiales et des nombres. Donc c'est un peu spécifique, mais pour autant, on a quand même des effets leviers d'un dispositif en dehors de l'école qui peut participer à une réduction certes légère, mais en tout cas présente des inégalités dans le domaine de l'apprentissage du langage oral, circonscrit ici aux relations spatiales et aux nombres. Alors qu'est-ce que sont ces fonctions exécutives et pourquoi on s'intéresse autant aux fonctions exécutives dans les laboratoires de psychologie du développement? Les fonctions exécutives, en gros, on peut les subdiviser en 3 fonctions exécutives principales. L'inhibition, sur laquelle a beaucoup travaillé Olivier Houdet, sur laquelle on est très connu au laboratoire, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Globalement, c'est des fonctions qui sont hébergées dans votre cortex préfrontal et qui vont réguler l'ensemble des autres fonctions cognitives, sociales et émotionnelles de votre cerveau. Et c'est pour ça qu'elles ont un rôle extrêmement important dans les apprentissages des enfants. L'inhibition, c'est typiquement la capacité à faire preuve de retenue, sortir de nos routines ou traiter une information bien spécifique sans tenir compte des autres informations présentes dans notre environnement. Donc c'est ce qui va sous-tendre, par exemple, notre capacité à focaliser notre attention sur une information pertinente dans une scène dans laquelle il peut y avoir un certain nombre de distracteurs. Mais c'est aussi la capacité que nous avons à développer une pensée critique. C'est-à-dire que la pensée critique, elle est basée en partie sur notre capacité d'inhibition, c'est-à-dire de pouvoir aller contre nos biais nos opinions pour pouvoir traiter finalement les faits. Et puis, c'est aussi une fonction exécutive qui nous permet de nous adapter au changement de notre environnement et d'exercer notre libre arbitre. Donc ça, c'est la première. La seconde, c'est la mémoire de travail. C'est typiquement la mémoire à court terme que nous utilisons dès que nous sommes dans une situation de résolution de problème. Ça nous permet de maintenir des informations et de les manipuler pendant quelques dizaines de secondes pour trouver la solution d'un problème. Donc, typiquement, quand on demande à un élève d'effectuer une opération arithmétique de tête, c'est précisément ce qu'il fait. Il va activer des informations, manipuler ces informations en utilisant différents types de stratégies. S'il n'a pas encore stocké en mémoire à long terme ce fait arithmétique, et ça lui permet de produire une réponse, parfois qui est juste, parfois qui est erronée. Mais c'est cette fonction exécutive qui permet ça. Et puis la dernière, c'est la flexibilité cognitive. C'est la capacité à changer d'activité, à changer finalement de stratégie en fonction de la consigne qui nous est donnée. Donc c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va sous-tendre notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire que sans flexibilité cognitive, on ne peut pas s'adapter à des changements dans notre environnement. Pour vous démontrer qu'il y a un enjeu à travailler sur ces fonctions exécutives, je vais juste vous montrer des données qui sont analysées par l'une de mes doctorantes, Margot Rémo, qui est en thèse au ministère de l'Éducation nationale, notamment à la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, et qui a donc accès à un certain nombre de données administratives, et notamment d'un panel qui a été lancé maintenant il y a 4 ans à peu près, qui est le panel de la maternelle, qui va suivre 30 000 enfants à partir du moment où ils sont rentrés dans le système éducatif, en petite section de maternelle, jusqu'à leur sortie du système éducatif. Et l'intérêt dans ce panel, c'est qu'on a pu intervenir à temps et pas simplement évaluer le langage oral et les compétences, je dirais, de numératie des élèves, les compétences pré-mathématiques, on va dire, de ces élèves, leur compréhension du nombre. On a aussi pu évaluer les fonctions exécutives, donc ces trois fonctions dont je viens de vous parler. Et ce qu'on regarde dans ce modèle statistique, c'est de regarder en quoi le milieu social d'origine, ici on en tire une approximation via le niveau d'études et le type de métier dans les familles, impacte le langage oral et les compétences pré-mathématiques parce que ce milieu social d'origine impacte ses fonctions exécutives. Ce qu'on voit dans ce modèle, c'est que globalement, le milieu social d'origine impacte les compétences langagières et les compétences pré-mathématiques parce qu'elle a ce milieu social d'origine a un effet sur les fonctions exécutives. Donc une partie des inégalités éducatives, elles impactent effectivement des apprentissages scolaires et préscolaires parce qu'elles impactent en fait ces fonctions exécutives dont on sait qu'elles sont des très bons prédicteurs de la réussite académique future. Donc ça veut dire qu'effectivement l'un des enjeux et l'un des leviers de réduction de ces inégalités, c'est potentiellement d'essayer de développer ces fonctions exécutives. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans notre laboratoire. Juste pour vous montrer qu'on est en train de montrer aussi que ces facteurs d'inégalité, ils ne sont pas restreints au milieu social d'origine, ils s'expriment dès l'entrée en maternelle. On parle d'enfants qui viennent de rentrer depuis 4 mois à la maternelle. Ils ont en moyenne 42 mois. Ces enfants, ces compétences préacadémiques de ces enfants à 42 mois, à l'entrée à la maternelle, il y a des facteurs d'inégalité qui touchent tant au milieu social d'origine qu'au genre, qu'au mois de naissance. Le mois de naissance, on le savait déjà, vous le savez que ça vient d'être montré aussi sur les performances dans PISA, ce qui montre que ce n'est pas simplement pour les premiers apprentissages, ça impacte l'ensemble de la scolarité. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre simple mois de naissance, indépendamment de votre milieu social d'origine, crée un facteur d'inégalité pour vos apprentissages. C'est quand même incroyable, c'est purement structurel, ça. C'est la façon dont on a considéré qu'il fallait faire rentrer une classe d'âge à un moment donné, tous en même temps. Et ça suffit à créer de l'inégalité. Et ce qu'on montre encore une fois, c'est que cette inégalité dans ces domaines pré-académiques, ils émergent parce que ces trois facteurs impactent les fonctions exécutives. Pour le genre, ça impacte finalement de façon positive le domaine préacadémique parce que les filles ont des meilleures fonctions exécutives et donc elles ont des meilleures compétences préacadémiques à l'entrée en maternelle. Ensuite, ça va se renverser un peu pour plein de facteurs différents dans lesquels je ne vais pas rentrer. Donc, on a mené beaucoup de recherches au laboratoire qui montrent qu'une partie des difficultés rencontrées par les élèves, pas uniquement en maternelle, mais pendant toute leur scolarité, relève de difficultés parfois à mobiliser ces fonctions exécutives, et notamment cette capacité d'inhibition. Donc on a montré que c'était le cas par exemple pour la difficulté qu'on rencontre les élèves à comparer les lettres dont l'image en miroir rencontre une autre lettre. C'est un peu long à expliquer, mais globalement, sachez que quand on essaye d'acquérir un outil culturel comme la lecture, s'opère une espèce de bricolage dans notre cerveau. Le cerveau coopte certaines régions qui étaient utilisées pour d'autres fonctions, que cette cooptation de certaines régions va entraîner des espèces de bugs, et le bug pour les lettres en miroir, c'est qu'on réutilise des régions du système visuel qui ont comme propriété intrinsèque de généraliser en miroir. Donc vous imaginez bien que si vous généralisez le B en miroir, ça devient un D, et donc ça devient très difficile de distinguer le B et le D. Ce qu'on a montré, c'est que quel que soit votre niveau d'expertise en lecture, dès que je vous présente un B et un D, votre cerveau doit inhiber la généralisation en miroir pour être en mesure de dire que le B est différent du D. On a montré ça aussi dans la comparaison des nombres décimaux. Quand vous demandez à des élèves de comparer 1,4 à 1,342, ils ont tendance à vous dire que 1,4 est plus petit qu'un 1,342 parce qu'ils utilisent une stratégie automatique qui consiste à dire plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie, elle s'est mise en place dans un apprentissage antérieur. C'est au moment où on leur demandait d'apprendre à comparer des nombres entiers. Les enseignants leur apprennent bien à comparer les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. C'est pas du tout ce que fait leur cerveau. Leur cerveau a détecté une régularité, et donc à chaque fois que le nombre est plus grand, comporte plus de chiffres, ils considèrent que le nombre est plus grand. Et ils transfèrent dans ce contexte-là, et donc ça fonctionne pas. Bon, simplement pour vous dire qu'on l'a montré aussi dans le domaine d'erreurs en orthographe, les erreurs d'attraction de type je les pilote, avec les élèves qui mettent un S à pilote parce que le verbe prend une forme nominale, et parce qu'il prend une forme nominale, il y a une erreur d'attraction qui s'opère. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une erreur et un automatisme qui s'est créé dans une interaction de tutelle. C'est souvent quelqu'un qui leur a dit. Il leur a dit, bah, écoute, c'est simple, pour pas oublier la marque du pluriel sur les noms, quand il y a les, tu mets un S au mot qui suit. Catastrophe. Parce que ça crée un automatisme, et comme c'est un automatisme, il se déclenche de façon extrêmement rapide, de façon quasiment irrépressible, et donc ce que doit apprendre l'enfant dans ce contexte-là, c'est à inhiber cet automatisme qui s'est construit dans des années antérieures de la scolarité. C'est simplement pour vous montrer très concrètement comment ces fonctions exécutives, finalement, ont un impact sur les difficultés rencontrées par les élèves. Sachant que tout ça est totalement aveugle pour les enseignants. Ils n'ont jamais entendu parler des fonctions exécutives, sauf ceux qui ont eu la chance d'entendre parler soit Olivier Houdet, soit des membres du laboratoire. Et donc, ça fait quelques années qu'on essaie de voir est-ce que ça a du sens d'essayer d'entraîner ces fonctions exécutives. Indépendamment de la réduction des inégalités éducatives, est-ce qu'on peut amener les élèves à mieux apprendre si on développe leurs fonctions exécutives? Et on a essayé plein de choses différentes. Une des choses qu'on a faites, dans une démarche de recherche collaborative et participative, on utilise une plateforme en ligne qui s'appelle lea.fr, dans laquelle il y a 200 000 enseignants qui sont inscrits, plateforme qui est portée par les éditions scolaires Nathan. Et dans ce cadre-là, on fait de la recherche collaborative étape par étape avec des enseignants. Donc on leur explique pourquoi c'est important pour évaluer l'efficacité d'un dispositif pédagogique, d'utiliser un groupe témoin, un groupe contrôle. Pourquoi c'est important de faire une évaluation avant et après l'intervention. Pourquoi la méthode expérimentale nous permet d'établir des liens de causalité. Et puis ensuite, on construit avec eux des projets de recherche. Ici, le projet de recherche était très simple. On leur a demandé simplement que dans la moitié de leur classe, ils fassent jouer aux enfants à des petits jeux du type 1, 2, 3 soleil, Jacques a dit, ni oui ni non, mais des petits jeux des petits jeux de société. Et tous ces jeux, ils ont une particularité, c'est qu'ils demandent, ils requièrent de l'inhibition. Typiquement, dans 1, 2, 3 soleil, quand je me retourne, je dois arrêter de bouger. Quand je joue à ni oui ni non, je dois casser l'association systématique entre une question et la réponse oui ou non. Ainsi de suite. Et puis jouer à d'autres types de jeux qui développaient d'autres types de compétences. Et puis on a évalué à l'aide d'un test extrêmement classique en psychologie leur capacité d'inhibition. Ici c'est un test un peu particulier dans lequel il faut identifier la couleur de l'encre dans laquelle on a écrit chacun de ces mots. Donc c'est difficile parce que rouge est écrit en vert, donc on a très envie de dire rouge alors qu'il faut dire vert. Donc typiquement ça teste votre capacité d'inhibition. Bon, pour aller très vite, ce qu'on voit c'est que dans le groupe expérimental, celui qui a joué à des jeux 1, 2, 3 soleil, Jacques a dit ni oui ni non, il progresse un peu plus entre le pré-test et le post-test que le groupe contrôle. Donc on a effectivement comme première donnée qu'on peut jouer et construire des situations ludiques qui permettent de développer les compétences d'inhibition. La vraie question c'est est-ce qu'on obtient un transfert aux compétences scolaires? La réponse est non, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucun effet sur tous les domaines que je vous ai présentés. Donc, ils deviennent très bons pour avoir une bonne fonction inhibitrice, mais en soi, ça ne se transfère pas aux apprentissages scolaires fondamentaux, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on a eu une deuxième approche avec une autre de mes doctorantes, Marie Létang. Toujours en utilisant cette plateforme, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on va essayer d'aller faire, c'est avoir des approches beaucoup plus métacognitives. C'est-à-dire qu'on va aller amener l'élève à comprendre ce qui produit une erreur dans ce contexte-là. Donc, par exemple, on sait qu'il y a énormément d'erreurs qui s'expriment quand on demande aux élèves de résoudre des problèmes du type Pierre a 10 billes, il en a 5 de plus que Farah, combien de billes Farah a-t-elle? La réponse massive des élèves en cycle 2, cycle 3, c'est vous répondre que Farah a 15 billes. Parce qu'ils entendent plus dans l'énoncé du problème, et à partir du moment où ils ont entendu plus, ils font une addition. Et progressivement, par répétition de la règle dans ce contexte-là, péniblement, ils arrivent à dépasser cette erreur systématique. Et donc, on a juste essayé une stratégie pédagogique un peu différente. C'est-à-dire, au lieu de leur expliquer la règle, on a simplement commencé par leur dire « Attention, là, il y a un piège pour ton cerveau. Quand t'entends plus, t'as envie de faire une addition. Quand t'entends moins, t'as envie de faire une soustraction. Mais ça ne marche pas dans ce contexte. Ton cerveau doit inhiber cette stratégie, résister, stopper cette stratégie. Et puis ensuite, on leur explique quand même la règle à utiliser, parce que sinon, ils ne savent pas forcément quelle est la règle à utiliser. » Et on a comparé deux stratégies en classe. Nous, on n'a aucun effet d'intervention sur ce qui se passe dans la classe. En gros, on donne des stratégies, on forme les enseignants à utiliser ces stratégies. Ensuite, ils utilisent la stratégie qu'ils veulent dans leur classe. Donc, soit une stratégie qui vise à essayer de faire la lumière sur les stratégies qui sont utilisées, notamment la stratégie automatique qui vient interférer avec la stratégie logico-mathématique à utiliser dans ce contexte-là, soit une stratégie beaucoup plus classique qu'on observe dans toutes les classes qui consiste à réexpliquer la règle à utiliser dans ce contexte-là. Et encore une fois, on garde prétest, posttest, posttest différé. Et ce qu'on voit, c'est que des approches plus métacognitives qui amènent à faire réfléchir l'élève sur l'erreur qu'il produit et les processus qui expliquent cette erreur produisent plus d'apprentissage en prétest et y compris quelques semaines après l'arrêt de l'intervention. Sachant que l'intervention, elle dure entre 20 et 30 minutes. C'est extrêmement resserré comme intervention. Et déjà, vous voyez qu'on a des effets positifs. Et puis ça, c'est simplement pour vous montrer que ça n'a pas d'effet négatif ou d'externalité négative sur des problèmes dans lesquels, précisément, il ne faut pas inhiber l'automatisme. Quand j'entends plus, je fais une addition. Quand j'entends moins, je fais une soustraction. Donc, ils utilisent bien ce processus uniquement dans la condition dans laquelle il doit être utilisé. Donc, ça nous a amené finalement à nous dire, mais finalement, ce qu'on devrait essayer de développer chez les élèves, c'est ces capacités de métacognition. Est-ce que ça pourrait pas être un vecteur potentiel de réduction un peu des inégalités éducatives, surtout si on commence très tôt et qu'on essaye de les enseigner dès la maternelle. Donc, c'est un peu ça l'objectif des projets de recherche qu'on mène en ce moment. Donc, qu'est-ce que c'est que la métacognition? C'est l'ensemble des mécanismes d'autoréflexivité de notre cerveau. C'est notre capacité, finalement, à nous poser des questions sur les stratégies que nous utilisons au cours des apprentissages. C'est un ensemble de connaissances sur nous-mêmes, par exemple, sur nos forces et nos fragilités, sur les processus, par exemple, de mémorisation. Qu'est-ce qui est une stratégie de mémorisation efficace? La méthode des lieux, par exemple, et ainsi de suite. Des connaissances sur les tâches, savoir que certaines activités demandent plus de ressources cognitives que d'autres, donc il faut que je sois plus concentré, et ainsi de suite. Et puis, des connaissances sur des stratégies, savoir que certaines stratégies sont plus pertinentes pour une tâche donnée. Donc ça, c'est ce qui relève des connaissances. Et puis, à côté de ces connaissances, il y a tout ce qu'on appelle les compétences ou les stratégies métacognitives. Il y en a trois principales. La planification qui nous permet de définir le but d'une activité et au regard de ce but, de sélectionner les stratégies les plus pertinentes. Le monitoring et le contrôle qui nous permettent de vérifier que tout se passe bien comme prévu, c'est-à-dire qu'on a commencé finalement une procédure et de se dire « Ok, est-ce que ça marche ou je suis complètement en train de me planter ?» De détecter et de corriger les erreurs. Et puis l'évaluation, c'est finalement ce qui nous permet d'apprendre de nos erreurs, c'est-à-dire d'avoir la capacité de faire le bilan de ce qui a été appris et de déterminer comment s'améliorer la prochaine fois. Donc c'est vraiment notre capacité sur la base du bilan qu'on fera de cette activité de savoir si on est capable d'engager des stratégies différentes si celles qu'on a utilisées n'étaient pas efficaces. Donc ce qu'on vient de montrer au laboratoire avec une autre de mes doctorantes, Mélanie Pinero, c'est que globalement, le milieu social d'origine en grande section de maternelle, il impacte les compétences préacadémiques en mathématiques et en langage oral parce qu'il impacte les fonctions exécutives, mais il impacte aussi ses compétences, ses connaissances et ses stratégies métacognitives. Donc c'est un peu le point de départ de toutes les recherches qu'on mène en ce moment, c'est de se dire, en fait, c'est sur cette dimension-là qu'il faut essayer d'étayer les enfants. Et donc on essaye différents types d'approches. On a en ce moment un essai contrôlé randomisé qu'on mène avec Carlo Barone de Sciences Po et Élise Huiry de l'Université Dauphine, dans lequel on essaye de voir si on peut essayer de développer, de sensibiliser les parents sur l'enjeu de ces compétences métacognitives et de ces fonctions exécutives en envoyant chaque semaine des petites vidéos qui durent entre 3 et 5 minutes. Et dans cette petite vidéo, on explique aux parents finalement pourquoi c'est important de travailler la métacognition, pourquoi c'est important de travailler les fonctions exécutives, et on leur donne potentiellement des petites activités qu'ils peuvent faire à la maison. Donc globalement, c'est pas plus compliqué que ça. On en envoie 17 pendant l'intervention. L'intervention se déroule sur une vingtaine de semaines. Et puis on évalue les pratiques parentales avant et après l'intervention, on évalue les compétences des élèves, notamment dans le domaine de la métacognition et des fonctions exécutives, et puis un jour, nous aurons accès aux évaluations nationales de l'ADEP et on pourra suivre ce dispositif. Je dis ça juste parce que ça prend un peu de temps pour signer les conventions, mais on va y arriver. Donc on aura l'impact sur les trajectoires de ce point de vue-là. Simplement pour vous dire que on est toujours en train de décortiquer les données de ce RCT, hein, on est encore en cours, mais globalement les premières données qu'on a, c'était simplement pour, parce qu'on parle de pratique parentale ici, et stratégie éducative des parents, simplement montrer que certaines pratiques parentales ont des effets sur le développement de la métacognition. Donc on regarde les mêmes modèles que tout à l'heure, est-ce que le milieu social explique une compétence, est-ce qu'elle l'explique parce qu'elle a un impact sur des pratiques spécifiques. Donc le milieu social d'origine a des impacts, vous le savez, sur des types de stratégies permissives ou autoritaires de parentalité, et ça a des impacts sur la métacognition, de la même manière que les activités avec les enfants ont des impacts sur la métacognition, parce que pour être très clair, quand vous demandez à un enfant quand vous faites avec un enfant un puzzle, vous travaillez sa métacognition. Si vous lui dites « Ah non, mais regarde, il ne faut pas faire juste de l'essai-erreur. Si tu commences, regarde, par les coins, et puis après, tu fais les côtés avant de commencer le... » Vous êtes en train d'étayer sa métacognition. Vous lui enseignez de façon très explicite des stratégies d'apprentissage efficaces, et qu'il a ensuite la capacité, évidemment, de transférer dans d'autres situations. Et puis, c'est ce que je venais de vous dire, en jouant, on développe certaines briques de base des apprentissages et ça permet de se transférer. Bon, simplement pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup d'effets, mais aussi parce que le taux d'engagement n'est pas optimal dans ce type de situation. Bien qu'on envoie les vidéos directement par SMS, on a 3 petits SMS qui rappellent qu'une vidéo a été envoyée, mais pour autant c'est extrêmement complexe d'avoir l'engagement des parents dans ce type de contexte. Les premières données, encore une fois, extrêmement préliminaires, je mettrai pas ma main à couper que ça va survivre à l'ensemble des analyses que nous ferons, c'est qu'on a quand même un domaine dans lequel on a un transfert, c'est sur les fonctions exécutives. Donc ça n'a pas complètement rien produit. Et si ça produit des effets sur les fonctions exécutives, alors potentiellement, ça peut être un axe de réduction des inégalités éducatives. Et puis je vais finir sur le dernier projet qu'on est en train de mener, qui est un projet à Marseille, qui est un projet d'abord petite échelle, mais qui est en train de monter à l'échelle, qui est un projet qui a été porté par Mélanie Pinero et Lise Brunet, dans lequel on a réussi à récupérer 18 heures de formation des enseignants de maternelle. Donc on a récupéré ces 18 heures de formation, et notre enjeu, ça a été de former les enseignants à utiliser des pratiques et des gestes professionnels autour de la métacognition quand ils enseignent le langage oral et les mathématiques à leurs élèves de moyenne et de grande section de maternelle. Donc encore une fois, c'est un essai, on va dire, expérimental. Il y a 23 professeurs qui sont formés, 20 professeurs qui servent de groupe contrôle. On évalue les pratiques pédagogiques dans les classes, c'est-à-dire qu'on va dans les classes faire de l'observation des pratiques pédagogiques avant et après la formation, et puis on évalue évidemment des compétences liées à la métacognition des élèves, et ainsi de suite, et leurs compétences dans le domaine du langage oral et des mathématiques. Alors voilà le type de questionnaire qu'on utilise pour les élèves pour évaluer la métacognition. Réfléchir au matériel et aux conditions dont il ou elle aurait besoin pour réaliser l'activité. On demande aux enseignants ou aux parents de positionner la fréquence avec laquelle les enfants réalisent ce type d'activité. On a aussi un questionnaire d'auto-évaluation des pratiques enseignantes. Donc on leur demande la fréquence avec laquelle, par exemple, ils incitent les élèves à définir ce qu'il faudrait améliorer la prochaine fois et à chercher des procédures et des stratégies plus efficaces. Ça relève réellement d'un questionnement métacognitif. Et puis, on a une grille d'observation, donc on va dans les classes et on regarde la fréquence avec laquelle on voit apparaître certains gestes professionnels avant et après l'intervention. Donc, j'ai pas encore les données sur les gestes professionnels des enseignants. On sait juste que quand on a fait le bilan pré-intervention, c'est des gestes qui sont extrêmement peu fréquents dans les classes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas des gestes professionnels qu'on observe de façon systématique dans les classes, ce qui est une très bonne nouvelle. Si c'était des gestes professionnels très instaurés dans les classes, bah finalement, ça ne serait pas un levier potentiel de réduction des inégalités éducatives, puisqu'elles sont là. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Et juste données préliminaires, encore une fois, puis je m'arrêterai là-dessus après ma prochaine diapositive, simplement vous dire qu'on commence à avoir des effets de transfert sur les compétences mathématiques. C'est-à-dire que, alors même qu'on n'a pas visé dans notre formation à former les enseignants à enseigner les mathématiques différemment, on leur a simplement enseigner comment former à utiliser des gestes professionnels autour de la métacognition, on a des effets de transfert aux mathématiques. La vraie question, c'est est-ce qu'on a réduit les inégalités, est-ce que ça n'a pas que profité aux élèves qui viennent des classes sociales les plus favorisées. Donc ça sera la vraie question, je pourrais vous dire ça d'ici quelques mois. Et puis la dernière chose, je voulais juste vous montrer cette étude qu'on vient de publier, alors un peu en avance, mais ça sera publié en 2025. Globalement, c'est une étude qui vise à déterminer quels sont les facteurs de résilience académique, notamment au brevet. Donc on a créé des profils d'élèves, et notamment des élèves résilients, c'est-à-dire des élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés, mais qui réussissent aussi bien que les élèves qui viennent de milieux sociaux favorisés au brevet. Et on regarde, mais qu'est-ce qui explique le fait qu'ils réussissent aussi bien? La première chose qui sort, c'est le bien-être scolaire. Le deuxième, c'est le concept de l'auto-efficacité académique. Le troisième, c'est les fonctions exécutives. Et le quatrième, c'est la métacognition. Donc ça montre bien que c'est des vrais vecteurs, y compris au collège, potentiellement de réduction des inégalités éducatives. Voilà, t'en parlais, mais tout ça, ça nous permet aussi de créer des ressources qui permettent d'entraîner les fonctions exécutives. Donc on va jusqu'au bout du processus de recherche translationnelle. On a créé des activités qu'on est en train de tester à Marseille dans les réseaux d'éducation prioritaire où on enseigne très explicitement aux élèves comment apprendre en sixième et on va regarder la trajectoire de ces élèves et la réduction des inégalités en travaillant sur ces dimensions-là. Et je finis en remerciant l'ensemble des membres du laboratoire. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.